Justement, alors après, je ne comprends pas parce qu'à chaque fois que je fais quelque chose sur le menu, il me change de transparent. C'est pas pratique. Mais bon. Voilà. OK. Alors, avec uniquement l'audio. Ah oui, et comment faire ça?
Il le fait automatiquement, il enregistre la vidéo et le son, et dans un autre fichier, il enregistre uniquement le
Je
son.
vous entends pas, je vous entends très trop bas.
Ah, vous m'entendez mieux là?
Oui, on va dire. Ouais.
Ah. Je disais, lors d'un enregistrement, il enregistre le son et la vidéo dans un fichier, et il enregistre aussi un autre fichier dans lequel il n'y a que le son.
Ah, d'accord. Ouais, et donc on peut choisir après. Ok, parfait.
Non, il n'y a pas à choisir, il enregistre quatre fichiers, je crois, de mémoire.
Oui,
Et il y
donc
en a.
il faut juste choisir le fichier à partager après.
Oui, exactement.
OK, c'est clair. Merci.
Bon.
OK, donc on recommence. Alors, donc dans cette séance, je vais vous montrer comment utiliser les réseaux bayésiens qu'on a introduit la dernière semaine. En tant que, on va dire, outil de description de notre connaissance incertaine sur un phénomène. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser cette connaissance pour tirer des conclusions, pour faire des inférences. Et donc, on verra, il y a deux méthodes qui peuvent être utilisées. L'inférence exacte et l'inférence approchée. Alors, l'inférence exacte, comme le nom le dit, c'est une inférence comment dire, qui calcule les probabilités des événements qui nous intéressent de manière exacte, mais qui a le défaut de ne pas bien passer à l'échelle. Et donc, pour des gros réseaux bayésiens où l'inférence exacte ne serait pas possible, il existe aussi la possibilité de faire de l'inférence approchée, comme on dit. C'est donc avec une méthode d'échantillonnage statistique. Donc voilà, je vais vous introduire ces deux méthodes. Ces deux méthodes, attendez, il y a Madame Mosba qui se déconnecte en continuation. Et donc je dois la réadmettre. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'inférence? L'inférence, dans le contexte des réseaux bayésiens et plus en général dans le contexte des statistiques, c'est le calcul de quelques statistiques, de quelques paramètres du système. Dans les réseaux bayésiens, c'est le calcul des probabilités a posteriori pour, on va dire, pour un ensemble de variables x, y que l'on appellera ici variables requêtes. Donc en fait, ce sont les variables dont on souhaite connaître les probabilités. Donc, par exemple, si on est dans le cas de figure, dans le scénario de la voiture qui ne démarre pas, on voudrait savoir quelle est la probabilité que ce soit le démarreur en panne ou bien la batterie à plat, etc., etc. Donc, on appelle ces variables pour lesquelles on veut connaître les probabilités, les variables requêtes, et tout cela étant donné un événement observé. Alors, qu'est-ce que c'est un événement en probabilité? Un événement, c'est une affectation de valeur à un ensemble de variables. Les variables qui sont typiquement observables. Il y a quelques variables que je peux observer directement, et donc à ces variables-là, je peux affecter des valeurs. Et je voudrais, donc, sur la base de ces valeurs affectées, avec certitude, hein, parce que ce sont, à ce moment-là, ce sont des valeurs à observer, pouvoir faire des inférences sur un autre ensemble de variables, et donc les variables requêtes, qui, elles, ne sont pas directement observables. Donc, les variables observables, on va les appeler évidences, hein, les variables évidences. Donc, il y a les variables évidences, les variables requêtes, et pour l'instant, on supposera juste une variable évidence, hein, mais on peut généraliser facilement. Et pour rappel, on va appeler les variables, on va dire Y, I, qui ne font partie ni de la requête ni de l'évidence, on va les appeler variables cachées. OK, donc ça, c'est des variables que l'on ne peut pas observer, mais dont les probabilités ne nous intéressent pas particulièrement. Elles sont juste là pour capturer des dépendances indirectes, hein, entre certaines variables. Et donc, vous le comprenez, donc il y a plusieurs tâches d'inférence possibles. Donc, on pourrait avoir des requêtes simples, hein, en fait, c'est le scénario que je décrivais dans le transparent précédent. Donc, en fait, on a une évidence, donc une affectation de valeur aux variables évidence, et on veut calculer la distribution marginale a posteriori. Qu'est-ce que c'est que la distribution marginale? En fait, la distribution marginale d'une distribution conjointe sur plusieurs variables, c'est quand on projette la probabilité sur une variable, par exemple. Donc, ici, c'est probabilité de x, i, hein, la im variable. Et c'est toujours Madame Mospa qui se déconnecte. Voilà, on doit faire la somme de tous les événements élémentaires dans lesquels, pour chaque valeur, on va dire pour chaque valeur de la variable marginalisée. Donc, on fait vraiment une projection. Ça, c'est le cas des requêtes simples. Une autre tâche pourrait être de trouver les décisions optimales, hein, mais ça implique aussi de connaître des utilités, en fait, l'utilité de chaque décision. On peut faire ça en pondérant l'utilité de chaque décision par la probabilité du résultat étant donné l'action. Et donc, ce que l'on est intéressé ici à calculer, c'est la probabilité du résultat étant donné une action et l'évidence, donc, c'est-à-dire les variables observables. Une autre tâche pourrait être qui découle, si vous voulez, hein, qui implique encore les tâches plus simples, c'est celle que l'on pourrait appeler valeur de l'information. Donc, on se pose la question de quelle évidence vaut-il mieux chercher. Donc, en supposant que, voilà, on a un certain nombre de variables observables, mais que cette observation n'est pas anodine. Hein, donc, elle a un coût, parce que voilà, ça nous fait perdre du temps de les observer, ou parce qu'il faut effectuer une expérience, ou parce qu'il faut vraiment payer. Hein, voilà. Donc, on pourrait se dire pour connaître la probabilité, ou pour estimer, pour mieux estimer la probabilité de la variable qui nous intéresse, quelle des variables évidences vaut mieux observer. Ou bien on pourrait faire une analyse de sensibilité, en fait, et se demander quelles sont les valeurs de probabilité les plus critiques, en fait, quelles sont les variables observables, hein, donc, et donc là, en fait, on ne fait pas vraiment des observations, mais c'est nous qui allons affecter des valeurs hypothétiques à ces variables observables pour voir quelle est leur influence sur le résultat, en fait, sur les variables de la des variables requêtes. Hein. Donc, quelqu'un pourrait aussi appeler ça une analyse what if. Hein. Qu'est-ce qui se passe si, hein? Donc, ou bien une autre tâche encore pourrait être de trouver une explication, hein, pour la situation présente. Par exemple, la voiture ne démarre pas. Pourquoi elle ne démarre pas? Ou bien pourquoi faut-il changer le démarreur? Hein? En fait. Donc là, on part de l'hypothèse qu'on a déjà fait le diagnostic. Hein, donc on a compris qu'il est fortement probable que le démarreur soit tombé en panne. Et donc, on veut donner une explication de pourquoi il faut le changer. Pourquoi est-ce que on est en mesure de conclure que c'est bien le démarreur qui est tombé en panne? Et on pourra faire cela parce qu'on aura, en regardant les tables de probabilité et les relations de corrélation statistique, on dira, ben, voilà, il est probable que le démarreur est en panne parce que la batterie n'est pas à plat et que la voiture ne démarre pas, par exemple. Voilà. Alors, la première méthode, de faire cette inférence est l'inférence exacte par énumération. Donc c'est une méthode simple, mais potentiellement très coûteuse, hein, si le réseau bayésien est grand. Donc il s'agit là de faire une énumération exhaustive de toutes les valeurs des variables requêtes. Et pour chaque valeur, on calcule sa probabilité. En fait, on marginalise la distribution conjointe. Donc, je vous rappelle que, en fait, un réseau bayésien, c'est une manière de représenter de façon concise une distribution conjointe sur toutes les variables qui sont concernées. Et donc, étant donné le réseau bayésien et donc les tables de probabilité conditionnelles, il est toujours possible de recalculer, de reconstruire cette probabilité conjointe. Bon, on ne va pas construire toutes les probabilités de la probabilité conjointe, pas en même temps, mais on va plutôt boucler sur les événements qui nous intéressent pour calculer les probabilités des valeurs des variables requêtes. Hein. Donc, par exemple, s'il y a juste une variable requête, bon, supposons que c'est une variable binaire, hein, oui ou non, ça veut dire qu'on va faire un calcul pour la valeur oui et un calcul pour la valeur non. Et on va calculer cette probabilité en appliquant la règle de chaînage, hein, que je vous ai présenté la semaine passée, pour calculer cette probabilité sur la base des probabilités conditionnelles données par le réseau bayésien. Et donc, pour chaque valeur, on calcule sa probabilité et on somme. Hein, on somme. Et donc, pour faire cela, il s'agit de faire une sorte de recherche en profondeur d'abord, sur l'arbre des possibles valeurs des autres variables. En suivant les dépendances ou plutôt mieux les corrélations statistiques qui sont exprimées par les arcs du réseau bayésien. Cette recherche en profondeur d'abord prend en fait un coup grand O de n en espace, donc ça c'est bon, c'est linéaire en espace, parce que à chaque fois on construit juste un chemin de la racine vers les feuilles. Par contre, dans le pire cas, on a un coût exponentiel en temps. En fait, 2 à la puissance n, au cas où toutes les variables sont binaires. Mais si certaines variables ont plusieurs valeurs, ben, ce sera... en fait, on doit remplacer la base 2 par une base d qui est la dimension de chaque, en fait, le nombre de valeurs pour chaque variable. Donc, l'algorithme d'énumération est celui-ci. Donc, en fait, vous voyez, il y a une sous-routine ici. Hein, donc, l'algorithme, il fait une boucle. Donc, on nous est donné en entrée la variable qu'on veut interroger. L'évidence pour l'évidence observée et un réseau bayésien. Et donc, on veut calculer une distribution sur la variable x. Donc, on initialise cette distribution comme une liste, par exemple, si on programme en Python, ce serait une liste qui, au début, est vide. Ce serait une liste où il y a une probabilité pour chacune des valeurs de la variable x. Et puis, pour chacune des valeurs de la variable x, donc, si x est une variable binaire, c'est facile. Hein? On fait le calcul pour x égale faux et pour x égale vrai. Mais s'il y a plusieurs valeurs, il faudra faire une boucle sur toutes les valeurs. Qu'est-ce qu'on fait là? Donc, on ajoute à l'évidence aussi la valeur xi pour la variable x. Et puis, on fait l'énumération. Donc, on normalise les résultats obtenus. Donc, vous voyez que la partie coûteuse de cet algorithme est la fonction enumerateAll, hein, qui prend les variables, l'évidence c'est l'affectation de valeur à un sous-ensemble de ces variables, et donc si les variables pour lesquelles il n'y a pas d'affectation n'existe pas, bah, ça c'est facile, la distribution est la probabilité est 1. Sinon on prend la première variable pour laquelle on n'a pas de valeur affectée on prend la première variable. Alors si pour cette variable il y a une valeur dans l'observation, alors on retourne la probabilité de cette valeur étant donné les parents de cette en fait, étant donné les valeurs des variables parents de cette variable. En fait, ce sont les variables qui ont des flèches qui vont vers Y. Et puis, on fait un appel récursif, hein, à enumerateAll avec la queue, hein, on va dire, la partie restante de la liste, hein, à laquelle on a enlevé la première variable. Et donc, vous voyez, c'est là où il y a cette exploration en profondeur d'abord. Si, par contre, pour Y, il n'y a pas d'observation, alors on va faire la somme de la même chose, mais pour toutes les valeurs de Y. Et donc, en fait, ce symbole ici de sommation, de somme, c'est traduit en une boucle. Hein, si vous programmez ça, par exemple, en Python, vous devez faire une boucle sur toutes les valeurs de Y. Et là encore, il y a une exploration, une recherche en profondeur d'abord, hein, de l'arbre des possibilités. Bon, donc, d'après cette discussion, il est clair, hein, d'où vient le coût de cet algorithme, hein, c'est justement cette exploration en profondeur d'abord. Il faut descendre, en fait, c'est plus qu'une recherche, c'est vraiment une visite, hein, de l'arbre en profondeur d'abord. Et donc, d'où le coût exponentiel. Alors, c'est pas que un coût exponentiel soit mal en général. Si le nombre de variables est réduit, ce coût exponentiel est supportable. Mais il est clair, vous comprenez que si le nombre de variables commence à augmenter, donc si on a des réseaux bayésiens un peu étoffés, cette méthode ne va pas tenir la route. Bon, néanmoins, cet algorithme de numération tel que je vous l'ai présenté peut être encore un peu amélioré parce que, en fait, si on revient ici, vous verrez qu'il y a beaucoup de calculs répétés. Donc, en fait, par exemple, ici, pour toutes les valeurs de i, je vais calculer cette probabilité conditionnelle et puis je vais la multiplier pour le résultat de enumerate all pour le reste des variables. Alors, il se peut que si les autres variables ne sont pas influencées par la valeur de y, à chaque fois que je fais cet appel, la valeur retournée sera toujours la même. Donc, il y a du potentiel ici pour épargner, parce qu'il il y a plein de calculs qui sont répétés. Et donc, l'idée, c'est laquelle? C'est d'éliminer des variables. Et donc, au lieu de calculer les sommes de gauche à droite, comme on le fait dans l'algorithme que je viens de vous proposer, l'idée serait de calculer les sommes de droite à gauche pour ces formules de chaînage et de stocker les résultats intermédiaires que l'on va appeler facteurs justement pour éviter les calculs répétés. Aussi, tout facteur constant peut être sorti de la somme et donc ce qui réduit encore le nombre de calculs qui doivent être faits. Et donc, on obtient cet autre algorithme, hein, qui s'appelle Elimination Ask, hein, qui élimine les variables. Donc ici c'est le même scénario qu'avant. Donc on a la variable demandée, l'évidence et le réseau. Et donc alors, si X fait partie de l'évidence, ben on se limite à retourner sa distribution, qui sera une distribution 1, 0. Hein. Mais sinon, on va. Et donc, vous voyez donc la différence d'approche ici, on se met à calculer les facteurs. Et donc, on crée une liste des facteurs et puis on prend les variables, mais on les visite on renverse l'ordre. Hein. Donc, on inverse l'ordre topologique. Donc, en fait, on commence par les variables qui sont topologiquement à la fin, donc, c'est-à-dire celles qui dépendent des autres. Ou bien, non, attendez, c'est plutôt le contraire, celles qui ne dépendent pas des autres. Et donc, pour chaque variable, dans cette liste de variables, on construit le facteur. Donc, en fait, on calcule sa probabilité en utilisant la règle de chaînage. Et puis, on normalise le produit point à point. Alors, le produit point à point de deux fonctions et donc de probabilité conjointe, et l'idée est celle que je vous ai mis ici en bas. Donc, en fait, si vous avez F1 qui est une fonction sur les variables X1, XJ et puis Y1, YK, et F2 qui est une fonction des variables Y1, YK et puis Z1, ZL. Donc, vous voyez, il y a F1 a des variables qui ne sont utilisées que par F1. F2 a des variables qui ne sont utilisées que par F2, c'est les variables Z. Et puis, il y a des variables qui sont en commun entre ces deux fonctions. Alors, le produit point à point consiste à faire... à définir la fonction F produit, la fonction produit qui utilise toutes les variables, en faisant les produits pour chaque valeur de Y1, YK, afin d'obtenir cette valeur-là. OK, donc ça c'était l'inférence par énumération. Donc, mais il peut arriver que malgré toutes ces astuces, l'élimination de variables, le fait de sortir les facteurs constants, etc., pour un réseau bayésien assez grand, même en fait cette inférence exacte devient impossible, ingérable, trop coûteuse. Ce que l'on fait alors, c'est d'utiliser un mécanisme d'inférence approché. Et l'idée ici, c'est de, au lieu de faire tous les calculs qui coûtent énormément, on utilise une méthode Monte Carlo stochastique. Donc, en fait, on est dans le même ordre d'idée que les algorithmes évolutionnaires. C'est une technique de ce genre-là, sauf qu'elle est un petit peu moins sophistiquée que les algorithmes évolutionnaires. Donc, qui consiste à tirer n échantillons d'une distribution S, calculer une probabilité a posteriori approchée, P étoile, et puis montrer que cela converge vers la vraie probabilité P. Donc, pour faire cela, pour appliquer cette idée générale au réseau bayésien, et en particulier au problème de l'inférence dans les réseaux bayésiens, il faut donc qu'on introduise maintenant quatre notions qui sont l'échantillonnage à partir d'un réseau bayésien vide, donc, c'est-à-dire un réseau bayésien sans évidence ajoutée. Et ça, ça constituera la base qui nous permet de tirer ces échantillons de la distribution. Puis, il faut utiliser la méthode du rejet, qui est une méthode utilisée pour construire des distributions avec une probabilité donnée à partir d'un générateur de nombres aléatoires ou pseudo-aléatoires. Donc, en fait, ça consiste à échantillonner et puis jeter les échantillons qui ne correspondent pas à l'évidence qu'on a. Et donc, en faisant l'échantillonnage à partir d'un réseau bayésien vide, et puis en rejetant les échantillons qui ne s'accordent pas à l'évidence, on obtient ce que l'on pourrait appeler un échantillonnage à partir d'un réseau bayésien avec évidence. Puis je vais vous introduire la pondération suivant la vraisemblance qui vise à améliorer l'efficacité de la méthode du rejet en utilisant l'évidence pour pondérer les échantillons. Ne vous inquiétez pas si tout n'est pas clair maintenant, ça va s'éclaircir en allant. Et finalement, on met toutes ces choses ensemble et on fait ce que l'on appelle échantillonnage de Gibbs, qui consiste en la construction d'un processus stochastique, en fait une chaîne de Markov, dont la distribution stationnaire est la vraie distribution a posteriori. Voilà, donc je vais maintenant vous présenter ces quatre notions, à la fin desquelles vous devriez comprendre comment ça marche l'inférence approchée. Alors, l'échantillonnage d'un réseau bayésien vide est une chose assez simple. Donc, imaginez, et je vais vous l'expliquer par un exemple. Donc, supposons d'avoir un réseau bayésien comme celui-là, où il y a quatre variables, toutes binaires, par simplicité. Donc, couvert, ça veut dire que le ciel est couvert, pluie, ça veut dire qu'il a plu. Arrosage, ça veut dire que l'installation d'arrosage a fonctionné. Et gazon mouillé, signifie que le gazon est mouillé. Donc, et vous avez ici des tables de probabilité. Donc ça, c'est un réseau bayésien tel qu'il aurait pu être construit par un expert ou suite à des observations d'un jeu de données d'observation historique. Donc c'est le genre d'activité que vous avez fait la semaine passée pour le TD. Maintenant, on va échantillonner la distribution conjointe qui est représentée par ce réseau bayésien. Et comment ? En fait, on va considérer les variables dans leur ordre topologique, c'est-à-dire à partir de couvert, et puis arrosage ou pluie, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas d'ordre particulier entre arrosage et pluie, il n'y a pas de flèche entre elles. Et puis, après arrosage et pluie, on va considérer gazon mouillé qui dépend de arrosage et de pluie. Donc, quand je parle d'ordre topologique, c'est un ordre qui est cohérent avec les flèches qui sont dans le réseau bayésien. Puisque la structure du réseau bayésien est un graphe acyclique dirigé, un tel ordre existe toujours. Peut-être il n'est pas unique, mais il existe toujours. Il est toujours possible de ordonner, de trier les variables de telle sorte qu'il n'y ait jamais une violation de cet ordre de dépendance. Et donc, par exemple ici, les ordres possibles sont couvert arrosage puis gazon mouillé ou couvert puis arrosage gazon mouillé. Bon, j'espère que c'est clair. Donc ça, c'est ce que l'on appelle ordre topologique des variables. Donc, on examine ces variables en ordre et donc, pour la première variable, couvert, on utilise le générateur de nombres aléatoires de l'ordinateur pour engendrer une valeur c'est-à-dire couvert ou pas couvert, avec une probabilité 0,5. Donc, d'ici, on va arriver à couvert avec une probabilité 0,5 et à pas couvert, non couvert, avec une probabilité 0,5. C'est hyper facile. C'est juste, ici, c'est comme jeter lancer une pièce. Supposons, alors prenons maintenant pour faire un exemple, supposons que cette étape nous a donné couvert. C'était, il y avait une probabilité de 1,5 et ça a donné la valeur couvert. Alors là maintenant, on va dire que la valeur de couvert est vraie. Okay? Donc, À ce moment-là, on considère arrosage, donc on est là dans le réseau bayésien, et on considère cette table de probabilité conditionnelle. Donc en fait, là c'est la probabilité de arrosage étant donné la valeur de la variable couvert. Mais comme couvert ici est fixé à vrai, on va considérer juste la ligne qui correspond à vrai. Et donc là, on a une probabilité de 0,1 pour vrai, pour arrosage égal à vrai. Et donc, une probabilité de 0,9 pour arrosage égal à faux. Donc, on utilise encore une fois le générateur de nombres aléatoires de l'ordinateur et on tire au hasard une valeur pour arrosage et avec probabilité 0,9 on obtient pas d'arrosage. Donc maintenant on est là, on a deux variables qui sont valorisées, couvert et arrosage. Donc, couvert c'est vrai, arrosage c'est faux. Et maintenant, on fait la même chose pour pluie. Alors, j'attire votre attention sur le fait que la probabilité de pluie ne dépend pas d'arrosage. Donc, ici, on regarde juste la ligne qui correspond à la valeur vraie pour couvert, parce que c'est la valeur qu'on a fixée ici. Et donc, avec probabilité 0,8, on aura vrai pour pluie. Et avec probabilité 0,2, on n'aura pas de pluie. Voilà. Supposons que la valeur tirée au hasard maintenant est vraie pour pluie. Et donc, on arrive là, tout en ayant fixé couvert, vrai pour couvert, faux pour arrosage et vrai pour pluie. À ce point-là, on a tout ce qu'il faut pour tirer, en fait, pour échantillonner aussi la variable gazon mouillé. Ici, on doit concentrer notre attention sur... Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a... Qu'est-ce qu'il y a dans la waiting room? Okay. Donc, on a... Voilà. On a... Excusez-moi, je me suis emmêlé les pinceaux avec... OK. Donc, on a ici... qu'est-ce qu'on était en train de dire? Donc, couvert égal à vrai, mais gazon mouillé ne dépend pas de couvert, pas directement. Donc, il faut juste regarder arrosage et pluie. Alors, arrosage est faux et pluie est vrai. Donc, on va se concentrer sur la ligne faux-vrai ici. Et donc, la probabilité d'observer le gazon mouillé est 90%. Et donc, on obtiendra gazon mouillé avec une probabilité de 90% et gazon pas mouillé avec une probabilité de 10%. Et donc, vous voyez, imaginez de répéter ce processus, vous, vous choisissez un millier de fois, un million de fois. Avec ça, vous pourrez la distribution des événements que vous engendrez en faisant cet échantillonnage suivra exactement la même loi de distribution conjointe qui est représentée par ce réseau bayésien. Hein? Donc voilà, ça s'appelle échantillonnage d'un réseau bayésien vide. C'est vide parce qu'on n'a pas, pris en compte d'observation, on n'a pas d'évidence ici. C'est juste la distribution conjointe des quatre variables qui est décrite par ce réseau bayésien. Cependant, on veut faire de l'inférence. Donc, ça veut dire qu'on a des observations, de l'évidence, et on veut, en quelque sorte, conditionner et marginaliser cette distribution conjointe pour l'évidence. Donc, l'idée est la suivante, d'appliquer la méthode du Régé, hein, qui est une méthode générale pour générer des échantillons suivant une loi de probabilité arbitraire, que l'on utilise quand cette loi de probabilité arbitraire est difficile à obtenir d'emblée par l'application du générateur de nombres pseudo-aléatoires. Donc, cette méthode du Régé appliquée au réseau bayésien, étant donné de l'évidence, donc là maintenant on fait l'hypothèse qu'on a de l'évidence, par exemple, on observe que le gazon est mouillé. Hein? Donc on ne sait pas si le ciel était couvert, s'il a plu ou si l'arrosage a marché. On observe le gazon mouillé. Okay? Donc, étant donné cette évidence, qu'est-ce qu'on peut dire sur la probabilité que l'arrosage ait marché, sur la probabilité qu'il a plu ou sur la probabilité que le ciel était couvert. Alors, ici, l'idée est la suivante. On tire un échantillon du réseau bayésien vide, donc sans évidence. C'est ce qu'on a vu dans le transparent précédent. Donc, on peut faire cela, on sait faire cela. Hein. On tire un échantillon de ce réseau bayésien vide. Puis, on vérifie si cet échantillon aléatoire qu'on a tiré respecte l'observation qu'on a fait pour l'évidence. Par exemple, le gazon est mouillé. Donc on vérifie, hein, donc on génère l'échantillon et puis on teste. Est-ce que dans cet échantillon, on a gazon mouillé? Si oui, on le garde. Sinon, on dira que cet échantillon ne s'accorde pas avec l'évidence. Et alors, on le jette. Hein? C'est ça la méthode du rejet. Hein? C'est aussi simple que ça. Donc, on rejette tout échantillon qui ne correspond pas à l'évidence, hein? Donc, c'est-à-dire où la valeur des variables évidence ne s'accorde pas avec l'observation. Et on répète ça plusieurs fois. Donc, typiquement des milliers de fois ou même plus. De toute façon, c'est l'ordinateur qui les fait, hein, c'est pas nous. Jusqu'à ce que le nombre d'échantillons retenus est suffisant pour estimer la probabilité qui nous intéresse. Hein. Et donc, l'étape finale, c'est de calculer les probabilités des variables requêtes, hein, celles qui nous intéressent, sur la base des échantillons retenus. C'est-à-dire, je regarde les échantillons retenus. Par exemple, je suis intéressé à la probabilité du ciel couvert. Ben, parmi tous les échantillons que j'ai retenus, donc supposez, j'ai généré 10 000 échantillons. Parmi ces 10 000 échantillons, 9 000 ont été écartés, ont été rejetés. 10 000 ont été retenus. Bon, ce sera plutôt le contraire dans le cas, en l'occurrence, mais bon, on va dire comme ça. Et sur les 1000 échantillons restants, on va compter combien de ces échantillons avaient le ciel couvert. Hein, on va dire, par exemple, 80%. Alors, si 80% de ces échantillons avaient le ciel couvert, je vais en conclure que 80% est une bonne estimation pour la probabilité de ciel couvert, étant donné l'observation que le gazon était mouillé. OK, donc c'est pas difficile, c'est juste ça. Donc ça, c'est la méthode du régime. Donc qui est extrêmement facile à implémenter, à coder, et aussi à comprendre. Mais il y a un problème. Pour certaines observations, typiquement les observations peu probables, hein, donc imaginez que j'ai une observation peu probable. J'observe un événement auquel notre distribution conjointe n'accorde pas une grande probabilité. Si je fais cet échantillonnage du réseau bayésien vide, sans évidence, seulement une partie infime des échantillons que je vais obtenir s'accorderont avec cette évidence. Donc, il me faudra tirer un nombre énorme d'échantillons pour avoir un nombre suffisant d'échantillons qui seront retenus par la méthode du Réger. Donc la méthode du Réger est simple, mais elle gâche beaucoup de temps parce que spécialement dans ces cas-là où la plupart des échantillons générés sont rejetés. Et donc, mais on peut mieux faire. Donc ça c'est l'idée de la pondération suivant la vraisemblance, qui est un cas particulier de l'échantillonnage préférentiel, je vais y arriver, dont l'idée est de fixer les valeurs des variables évidence. Donc en fait, au lieu de faire de faire un échantillonnage du réseau vide. Hein. On fixe d'emblée, a priori, les valeurs des variables évidence. Hein. Donc, par exemple, si j'ai observé que le gazon était mouillé, je fixe gazon mouillé égal à vrai. Et puis, je tire au hasard. En fait, je tire au hasard. Je génère avec la méthode d'échantillonnage que je vous ai présentée tout à l'heure les valeurs des autres variables. OK. Et puis, on pondère. Et donc, ça c'est le point qui fait la différence. On pondère chaque échantillon. Donc, au lieu d'avoir un tas d'échantillons qui valent tous la même chose. On affecte ici un poids à chaque échantillon suivant la probabilité qu'il accorde à l'évidence. Donc, en fait, une fois que j'ai obtenu cet échantillon où j'ai fixé les variables évidence, les valeurs des variables évidence, je calcule une probabilité, on va dire a posteriori, la probabilité des observations et en fait ce qui correspond à calculer cette probabilité que vous voyez ici en bas. Donc, en fait, c'est le produit des probabilités pour toutes les variables évidence de probabilité que xi est égal à la valeur de l'observation, hein, à l'évidence, étant donné les valeurs de ses parents dans l'échantillon. Alors, les valeurs des parents sont connues, hein, parce qu'elles ont été soit elles étaient des observations, donc elles étaient fixées, soit elles ont été engendrées par l'échantillonnage. Donc, on peut toujours calculer ça, et ça va nous donner une probabilité. Probabilité haute, basse, hein, mais peu importe. On va retenir cette probabilité, donc on va utiliser cet échantillon. Donc, là, on ne va rien jeter, on ne jette rien. Tout simplement, à chaque échantillon engendré de cette façon-là, et donc ce sont tous des échantillons qui s'accordent avec l'évidence par construction, mais par contre, à chaque échantillon, on associe un poids qui est la probabilité d'observer cet échantillon si le réseau bayésien est correct. Hein, si le processus qui génère les échantillons suit la loi exprimée par le réseau bayésien. On appelle cette probabilité une vraisemblance, hein, parce que alors c'est parce que ça mesure la vraisemblance de l'observation qu'on a fait de l'échantillon. Est-ce qu'il est probable d'obtenir un échantillon comme ça? Et donc, ici, quand on doit calculer les probabilités sur la base des échantillons retenus, on va calculer les probabilités non pas en comptant le nombre d'échantillons la variable qui nous intéresse a une certaine valeur, mais on va calculer ces probabilités en faisant la somme des poids des échantillons où la variable a la valeur qui nous intéresse. Et puis, on normalise. Voilà. Ça, c'est la pondération suivant la vraisemblance qui nous permet de contourner le problème du grand nombre d'échantillons qui sont rejetés par la méthode du rejet. Donc, c'est une espèce de rejet... En fait, rejet probabiliste, hein, ce poids W qu'on calcule ici, exprime la probabilité que l'échantillon généré ne soit pas rejeté, bon. ou la probabilité que cet échantillon soit généré par le processus de oui, c'est mieux exprimé comme ça. La probabilité que cet échantillon soit généré par le processus de par la méthode du rejet. OK. Et donc, exemple hein, de cette idée-là. Donc, supposons, alors c'est un peu plus compliqué, qu'on observe que le gazon est mouillé et que l'on sache que l'arrosage a marché. Hein. On le sait parce que, en fait, c'est nous qui l'avons mis en route. Hein. Et donc, on sait que l'arrosage a marché. Le gazon est mouillé. Donc, on a ces deux observations. Et donc, on fixe ces deux variables à vrai. Et on veut estimer la probabilité qu'il a plu, hein, étant donné... arrosage et gazon mouillé. Très bien. Donc, on va fixer ces deux variables. Hein, ces deux variables, arrosage et gazon mouillé, sont fixées par construction. Et on va tirer un échantillon du réseau bayésien. Alors, pour couvert, couvert ne fait pas partie de l'évidence, des observations. Et donc là, il faut utiliser sa probabilité qui n'est pas conditionnelle. Hein. Couvert ne dépend de rien. Et donc ici, on va faire exactement comme on le faisait avant. Avec une probabilité 0,5, on obtiendra couvert ou pas couvert. Ensuite, pour arrosage, il n'y a rien à faire parce que la variable est fixée. Mais on observe là que, étant donné la valeur fixée, la valeur générée aléatoirement pour la variable couvert, si cette variable de couvert est vraie, alors la probabilité que arrosage soit vrai ici aurait été de 0,1. Hein, on regarde cette ligne-là, hein, 0,1. Et ici, si on avait, si notre échantillonnage détermine que couvert doit être faux, cette probabilité monte à 0,5. OK, donc on continue. En ce qui concerne pluie, donc ça c'est une variable qui n'est pas fixée, donc il faut la fixer maintenant avec le générateur de nombres pseudo-aléatoires. On utilise ici 0,8, 0,2 comme probabilité. En fait, on se met dans la ligne qui correspond à couvert égale vrai. Et par contre, si on est là, on se met dans la ligne couvert égale faux. Et donc, on aura 0,2 pour pluie et 0,8 pour non-pluie. Et à chaque fois, on peut calculer la probabilité d'avoir la valeur pluie si, étant donné en fait la valeur de couvert. Alors, la probabilité d'avoir pluie si couvert, hein, et arrosage est maintenant de 0,99. Non-pluie est 0,90, et ici c'est 0,99, etc. etc. Alors non, excusez-moi, je me suis amené les pinceaux. Ça c'est la probabilité de gazon mouillé, hein. Parce que pluie, on l'a fixé. Donc, une fois qu'on a fixé toutes les variables, hein, parce que là, on a fixé couvert, on a fixé pluie, arrosage de gazon mouillé était fixé a priori, on peut calculer les probabilités. Et donc, les probabilités sont données par cette table-là. Hein. Donc, vous voyez, ici, on a arrosage et pluie. Elles sont tous les deux vraies. Donc, on prend cette valeur-là, 0,99, et on la met là. Donc ça, c'est une probabilité de 0,99 d'observer gazon mouillé. Donc c'est presque certain, si le ciel était couvert et il y a eu de la pluie, et l'arrosage aussi a marché, il est presque certain que le gazon devait être mouillé. Et ainsi de suite. Hein. Donc ça, ces probabilités-là, elles proviennent de cette table de probabilités-là. Et donc, finalement, on fait les produits. Donc, 0,1 fois 0,99 nous donne 0,99 pour l'événement couvert, arrosage, pluie et gazon mouillé. On est d'accord ? On a la probabilité de 0,09 pour couvert, arrosage, pas de pluie et gazon mouillé. Et puis 0,495 pour pas couvert, arrosage, pluie et gazon mouillé. Et finalement 0,49 pour pas couvert, arrosage, pas de pluie et gazon mouillé. Voilà, donc on sait comment calculer ces poids. Donc ça, ces nombres qu'on a calculés ici en bas, ce sont les vraisemblances de ces échantillons. Donc ici, on voit que l'échantillon le plus vraisemblant serait celui qui correspond à non couvert, arrosage, pluie et gazon mouillé. OK, donc on continue. Alors, c'est comme ça parce que on suppose ici que l'arrosage dépend du il y a probablement c'est un système automatique qui se met en marche quand le ciel est couvert ou des choses comme ça. Bon, donc une fois qu'on sait faire ça, alors. On peut utiliser ça pour faire un calcul hein, des probabilités, mais ça va être aussi ça va nous demander d'engendrer beaucoup d'échantillons. Donc une technique encore plus sophistiquée et efficace pour faire cette inférence approchée est celle de que l'on appelle échantillonnage de Gibbs, qui consiste. Alors, je ne vais pas aller en profondeur hein, dans ça, mais je vais vous donner juste les grandes lignes. On construit une chaîne de Markov. Hein, donc, une chaîne de Markov est un processus stochastique hein, dont l'état à chaque moment ne dépend que la probabilité d'être dans un état ne dépend que de l'état précédent hein, mais, et donc il n'y a pas de mémoire des états précédents pour calculer cette probabilité. Alors, ce qui est bien pour si on doit simuler ce processus, parce que on peut le faire juste en gardant en mémoire l'état précédent. Alors ici l'état de ce processus est constitué par une réalisation des variables du réseau bayésien. Qu'est-ce que c'est qu'une réalisation? En fait, c'est une affectation de valeurs à chacune des variables du réseau bayésien. C'est la même chose que l'échantillonnage dont on a parlé avant. Sauf que là, on faisait un échantillonnage, donc en fait, on déterminait les valeurs en utilisant un générateur de nombres aléatoires. Ici, on suppose que le processus démarre dans un état particulier, dans un état arbitraire, hein, donc, qui est constitué par une affectation arbitraire de valeurs à ces variables du réseau bayésien. Ça, c'est l'état. Et puis, donc, si le processus est dans cet état-là, on a une probabilité de transition qui nous dit quelle est la probabilité d'être dans un autre état étant donné l'état courant. Donc, on va générer ce prochain état et donc on va, au lieu de décrire les probabilités de cette matrice de transition, on va la donner de façon opérationnelle. Donc, on génère le prochain état en échantillonnant chaque variable, étant donné les valeurs courantes des autres variables. Donc, on a une affectation de toutes les variables. Puis, on choisit une variable au hasard. Hein? Donc, on va dire, par exemple, ciel, c'est ciel couvert. Donc, toutes les autres variables ont déjà des valeurs affectées. Et à ce moment-là, on se dit, OK, en gardant toutes les valeurs des autres variables fixées, et bien entendu, en gardant l'évidence fixée, donc on ne va pas échantillonner une variable évidence, parce que là, on sait que la valeur est celle-là. Donc, étant donné les valeurs de toutes les autres variables, quelle est la probabilité d'avoir chacune des valeurs de cette variable qu'on a choisie? On utilise ces probabilités pour générer aléatoirement une valeur pour cette variable. Et donc, on génère comme ça le prochain état de cette chaîne de Markov. OK? Et puis, on refait ça. Et donc, on fait une simulation, on lance une simulation en suivant cette règle. Donc, on part peu importe de quel état initial on part, on continue de choisir une variable non évidence. On génère une nouvelle valeur pour cette variable, étant donné les valeurs courantes de toutes les autres variables. On continue comme ça. Et bien, magie des processus stochastiques. Donc, je vous épargne toute la théorie qu'il y a derrière, mais on peut démontrer que ce processus converge toujours à une distribution stationnaire. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle parce que peu importe de quel état initial on parte, après un certain nombre d'itérations de cette simulation, ce processus converge à une distribution stationnaire. Et autre résultat intéressant, la limite pour t qui tend à l'infini. Donc, si on fait un nombre d'itérations suffisant, après un transitoire initial où la probabilité ne sera pas, en fait, il n'y a pas encore eu de convergence, mais une fois que cette convergence a eu lieu, le nombre de visites à chaque état devient proportionnel à la probabilité de la réalisation correspondante. Et donc, la probabilité d'une valeur, hein, pour une variable qui nous intéresse, va être estimée par la fréquence d'observation de la valeur donnée, enfin de cette valeur, dans cette simulation, dans ce processus stochastique que nous avons décrit. Hein? Donc, comment est-ce qu'on fait donc, pour faire une inférence dans un réseau bayésien grand, compliqué, etc. Enfin, on met à point cette chaîne de Markov. Hein, donc on fait une simulation suivant les règles qui sont données dans la première partie de ce transparent. Et puis, on attend un peu, hein, juste pour faire chauffer, on va dire, la simulation. Une fois qu'on a des raisons pour croire que le processus a convergé vers la distribution stationnaire, on le fait marcher encore un peu et on enregistre en fait la fréquence le nombre de visites dans chaque état. Et donc en fait en particulier pour la variable qui nous intéresse, on compte pendant combien d'itérations sa valeur a été telle ou telle. Et ce nombre divisé par nombre total d'itérations va nous donner la probabilité de cette valeur. Et voilà, donc comme ça, on arrive à estimer. Hein, ce qui est intéressant, c'est que cet estimateur converge assez rapidement vers la bonne probabilité. Donc en fait, il converge en probabilité. Si vous voulez une estimation très très précise, bah, il suffit juste d'atteindre un nombre suffisant d'itérations. Voilà, ça c'était tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc maintenant, vous avez une idée de comment on utilise les réseaux bayésiens. Alors, attendez, je mets ma caméra. Vous avez une idée de comment on peut faire des inférences en utilisant un réseau bayésien. La bonne nouvelle, c'est que en général, vous n'aurez pas à coder vous-même cette inférence parce que si vous utilisez une bibliothèque, par exemple Python, comme celle on va utiliser pour le TD d'aujourd'hui, pour faire les inférences, ben les algorithmes sont déjà comment dire, implémentés dans la bibliothèque. Donc, mais c'est quand même bien d'avoir une conscience de comment ces valeurs sont calculées. OK, donc on s'arrête là. Bah, vous pouvez faire une pause. Hein, et puis, voilà, aujourd'hui, je vous ai proposé un sujet de TD bon, qui n'est pas à moi. Hein, donc, en fait, je l'ai pris d'un sujet d'un collègue qui me semblait très bien ficelé et facile à suivre. Donc, bon, bien sûr, je l'ai un peu adapté. Et donc, c'est ça que je vous propose pour aujourd'hui. Bon, écoutez, on va faire une courte pause et on se revoit dans un quart d'heure. OK?